qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence dans la vallée de la Rance, 93.1.
Très belle journée à l'écoute des programmes de Présence. Il est 12h passé d'une minute et c'est l'heure du Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Heureux de passer ce moment avec vous, chers auditeurs. Il fait beau ici dans le studio de Lourdes puisque Anne-Rose est présente. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Joseph, bonjour à tous. Très belle introduction.
Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre présence ici?
Eh bien écoutez, les auditeurs l'ont remarqué, depuis mardi, nous consacrons beaucoup de temps sur notre antenne pour des émissions spéciales suite au décès du pape François survenu en ce lundi de Pâques. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet avec, en se posant la question de ce qui se passe en termes de liturgie et de protocole depuis que le pape François est décédé. Et nous sommes pour cela en compagnie de l'abbé Baptiste Pochulu, qui est responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Eh bien, ce sera avec grand plaisir que nous allons vous retrouver tous les deux. En attendant, voici le programme de cette heure que nous allons passer ensemble. Tout d'abord, la chronique verte de Benoît Guillard, très réactif, il a été glané quelques témoignages justement à propos du décès du pape François. Nous aurons également les informations et puis nous terminerons cette émission avec la chronique littéraire de Catherine Albrecht. Ce sera aux alentours des 12h50. Dans l'immédiat, je vous propose de faire un premier point sur l'actualité.
Bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, après des travaux de rénovation, inauguration de la gare de Bagnères de Luchon par Carole Delga, présidente de la région Occitanie, c'est aussi l'annonce, après 10 ans de fermeture, de la remise en service de la ligne Luchon-Morégio qui ouvrira en juin prochain. Entre Auch et Toulouse, au contraire, la ligne a besoin de rénovation. Le lancement du chantier est bloqué à cause d'un bras de fer entre l'État et la région concernant le financement. Un trajet emprunté par 10 000 personnes par jour risque donc de fermer en 2027 si aucune solution n'est trouvée. À Toulouse, un chantier nécessite la fermeture du périphérique extérieur à partir de ce soir 21h et jusqu'à lundi 5h du matin. La portion entre les échangeurs de Rangueil et l'Espinet sera fermée. Une déviation est cependant prévue, route de Narbonne. Dans le Lot, à l'image de Lourdes, la ville de Cahors intègre l'association des villes sanctuaires de France. Sa cathédrale Saint-Étienne et son chemin de pèlerinage n'y sont pas pour rien. Cette reconnaissance vient renforcer son attrait pour les pèlerins et les amateurs de patrimoine religieux. Une belle croix occitane fleurie est apparue dans la place du Capitole hier, une tradition annuelle à l'initiative des serres municipales. Cette année, un clin d'œil au Tour de France était présent, en référence à la 11e étape qui, cette année, aura lieu à Toulouse. Mardi prochain aura lieu la dernière conférence du cycle L'Unité dans la Cité Politique. Elle se déroulera à la paroisse du Christ au Roi à Toulouse de 20h30 à 22h, donnée par le frère François Daguet, professeur à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin de Toulouse. Demain auront lieu les obsèques du pape François. Il sera possible de les suivre en direct sur Radio Présence de 10h à 13h. Clap de fin pour le musée imaginaire du rappeur Oli aujourd'hui. Soirée de clôture musicale et festive ce soir, où vous pourrez entendre les artistes tels que Julien Granel, Vicky, Gigi Breu et Cut Killer. Du rugby pour terminer, ce soir en Pro D2, l'Union Sportive Montalbanaise se délocalise à Toulouse pour le derby face à Colomiers. Match décisif pour la qualification en phase finale. Le coup d'envoi sera donné à 21h dans l'emblématique stade Ernest Vallon.
Prochain rendez-vous de l'information, ce sera aux alentours de 12h30. Je vous le disais au sommaire de cette émission, la chronique verte de Benoît Guillard, aujourd'hui un petit peu particulière puisqu'il rend hommage au pape François.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, j'ai souhaité faire une chronique un peu spéciale, puisque, comme vous le savez toutes et tous, chers auditeurs, notre pape François est mort. Cette chronique, elle est dédiée, bien évidemment, depuis 2 ans, notamment et en particulier à la transition écologique et à ce que nous a rapporté au travers de Laudato Si et Fratelli Tutti, notre pape, donc la conversion intégrale et le fait que tout est lié. Bien sûr que, comme tous, cette mort me touche, nous attriste, et c'est au travers d'un certain nombre de témoignages que j'ai voulu partager un petit peu cet hommage avec vous, sachant que notre pape François est mort pendant l'octave de Pâques. Chose merveilleuse, après avoir le jour de Pâques traversé la place Saint-Pierre, tel un au revoir. Quel magnifique signe d'espérance, je trouve, bien sûr, et comme tout, j'ai d'abord un sentiment de peine de le voir partir, mais aussi une immense reconnaissance pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a dit, pour le patrimoine spirituel et humain qu'il nous laisse. En effet, l'héritage du pape François a profondément transformé la compréhension des catholiques de la relation entre l'humanité et la création. Il a ainsi donné vie d'une nouvelle façon à l'enseignement catholique pour la crise écologique actuelle. Et en particulier, il nous a fait un véritable appel prophétique à l'écologie intégrale, puisque à partir de son encyclique, publiée en 2015, l'encyclique Laudato Si, il a formulé la dégradation environnementale non comme un problème isolé, mais comme faisant partie d'une crise plus large des valeurs catholiques, en appelant à une écologie intégrale qui relie protection environnementale et dignité humaine, diminution de la pauvreté et réforme économique. Cette vision, alors très audacieuse, a mis les catholiques et le monde au défi d'aller au-delà des soucis abstraits et d'accueillir l'action concrète pour protéger cette planète, la maison commune qui est partagée par tous. Cette encyclique a eu des impacts très importants à la fois au niveau diplomatique et politique, et notamment un des impacts les plus importants et les plus significatifs de Laudato Si fut son influence sur l'accord climatique de Paris. L'encyclique a été ainsi publiée quelques mois avant les négociations et le pape François s'est activement engagé dans les efforts diplomatiques pour encourager les responsables à adopter cet accord. Son autorité morale et son plaidoyer ont aidé à façonner le discours en renforçant l'idée que l'action climatique n'est pas seulement un problème politique ou scientifique, mais un impératif moral. Aujourd'hui, d'ailleurs, le Saint-Siège fait officiellement partie de l'accord et il a consolidé son engagement à long terme pour faire face à la crise climatique. Voilà, chers auditeurs, en termes d'introduction, ce que je voulais rappeler un petit peu de l'action de notre pape. Et puis, donc, je profite de cette journée où je suis autour des acteurs de mission orale pour le diocèse de Tarbes-Lourdes pour interviewer nos prêtres et nos diacres qui contribuent pleinement au travers de ce mouvement et des mouvements d'action catholique à instaurer et à faire mettre à la lumière toutes ces belles actions de notre pape.
Voici le témoignage du père Gaby Lagurgue.
Ce que je retiens, je ne veux pas dire, mais en même temps le retiens, Je pense que le pape François a été un homme, un témoin du Christ aujourd'hui sur cette terre, dans ce monde tel qu'il est, dans une église telle qu'elle est, mais avec la volonté de vivre une incarnation, comme a fait le Christ, venu sur cette terre pour changer le regard des hommes sur Dieu, pour en faire un père. C'est un Dieu Père, va dire souvent le Christ dans l'Évangile. Et François, pour moi, c'est vraiment l'Évangile lu, incarné, et puis aussi transmis, et en même temps développant un courant dans l'Église pour permettre un petit peu que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes découvrent leurs capacités, leurs possibilités, pour transformer ce monde, il est possible encore de le transformer. Et il faut qu'il y ait tout le monde, sans exclusion, chacun amenant ce qu'il est, ce qu'il peut peut amener. Et je pense que ça, c'est important. Et puis, je le vois un petit peu, bon, je suis prêtre du Prado, et c'est pour moi, c'est quelque chose aussi qui va dans le même sens. Quoi. Le père Chevrier, il a voulu cela. Il a voulu que à partir des plus petits, des plus pauvres, qu'on regard autre sur le monde. Ils ne sont pas d'abord à vouloir chercher de l'argent à tout prix, ou des biens, ou de la terre à tout prix, mais vivre. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on est dans cet espace... Moi, dans cet espace rural où je vis, et c'est important que d'aider, de soutenir de ma manière, avec les autres, jamais tout seul, de travailler à développer un monde aujourd'hui plus juste, plus solidaire, mais aussi un monde qui découvre toutes ses capacités, y compris le spirituel, cette dimension qu'on découvre pas forcément toujours dans les nouveaux venus. Or, il y a des valeurs fondamentales à travers aussi tout ce que ça dit François par rapport à Laudato Si, par exemple, et puis le regard sur l'ensemble du monde, de tous les pays du monde, de tous les continents du monde. Voilà, je crois qu'il nous laisse ce message-là, mais à continuer. C'est pour ça que je ne veux pas dire je me souviendrai ou bien je ne vais pas garder une médaille de lui. Ce qui me semble important, c'est de continuer ce qu'il a voulu faire à la suite du Christ, qui nous dit allez et sortez de cette église, allez dans le monde, pas pour la ramener, mais pour faire en sorte que ce monde vive et vive bien.
Alors, chers auditeurs, je suis maintenant avec Xavier Crespe. Xavier Crespe, vous l'avez entendu dans une de nos émissions, donc c'est un Gersois. Et puisqu'il est de passage à Lourdes, je profite effectivement de cet événement pour recueillir son avis à lui également, suite au départ de notre pape.
Départ du pape François m'a peiné, comme tout à chacun, bien évidemment. Au-delà que c'était un bon pape, évidemment. Ce qui m'a le plus marqué, en définitive, dans ma vie de chrétien avec l'accompagnant du pape pendant cette douzaine d'années, c'est l'encyclique Laudato Si. C'est le fait de me faire découvrir l'écologie sous une autre forme, intégrale peut-être, donc difficile à vivre, mais aussi ne pas simplement voir l'écologie sous un angle politique ou sous un angle simplement de changement de paradigme agricole, mais aussi dans un mode de vie. Et puis aussi, c'est peut-être la première personne qui m'a fait connaître le mot décroissance sans que ce soit un gros mot. Parce que bien souvent, on parlait toujours de la décroissance comme un gros mot, et les gens qui en parlaient comme des fous furieux ou des révolutionnaires. Peut-être que le pape était révolutionnaire ou est révolutionnaire, mais Dieu l'était-il pas aussi? Mais d'un autre côté, là on l'a découvert, cette décroissance, on la vit d'ailleurs, ou on va s'habituer à la vivre, et je pense que Laudato Si a été un révélateur, une encyclique révélatrice extraordinaire pour moi et pour beaucoup de gens. Voilà, c'est pour moi l'essentiel que je pourrais dire.
Nous sommes maintenant avec Damien Aviron-Violet, que nous avons déjà croisé dans le cadre de nos émissions Chroniques Vertes sur le Centre Assomption de Lourdes. Damien, votre sentiment, votre regard, ce que vous avez envie de retenir de notre pape, maintenant qu'il nous a quittés?
Déjà une certaine tristesse à l'annonce de sa mort. Une envie de continuer à porter en tout cas son message, qui moi, en tout cas m'a retourné à un moment donné. Comme je le lisais hier sur un message qu'Église Verte avait envoyé, une phrase qui me parlait beaucoup, qui disait aujourd'hui, à l'heure de sa disparition, son engagement nous éclaire, nous soutient et nous oblige. Et moi, j'ai surtout le mot oblige, en tout cas, qui résonne en tout cas beaucoup pour moi et pour le projet qu'on porte ici sur le Centre Assomption de Lourdes, à continuer à faire vivre son message, son appel, parce que je pensais vraiment de cet ordre-là, en tout cas, le mettre en action pour transformer en tout cas le monde auquel on croit et auquel on tient. Voilà un peu les mots qui me venaient.
Au terme de cette émission, que dire? Laudato Si et Fratelli Tutti inspirent de nombreux catholiques, nos mouvements d'action catholique bien sûr, mais aussi les nouvelles générations de leaders éthiques qui sont engagés envers la durabilité et la justice. À la croisée de la foi et de l'environnement, soyons nous aussi les défenseurs environnementaux et continuons à prendre soin de notre maison commune et des plus pauvres. Chers auditeurs, en union de prière avec vous tous, à la veille de l'enterrement de notre pape. Merci pour votre attention.
Voilà pour cette émission un peu spéciale de Benoît Guillard, que vous pourrez retrouver bien sûr dans son intégralité sur le site internet de Radio Présence. Dans un instant, Anne Rose dans nos studios avec son invité. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia. Do bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus deu. Que Deus entendeu de dar toda a magia. Do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Que Deus deu. Da magia, tudo bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Gilberto Gil sur Présence.
Radio Présence à Toulouse 97.9.
12h18 à la pendule de Présence, l'heure pour nous de retrouver Anne-Rose Jankovic. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Joseph, bonjour à tous et bonjour à vous, mon invité, Abbé Baptiste Pochulu.
Bonjour Anne-Rose, bonjour Joseph.
Vous êtes le responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et avec vous nous allons parler de ce qui vient de se passer depuis lundi, depuis la mort du pape. Les jours qui suivent la mort du pape s'articulent autour de trois grands temps forts, la séquence du deuil qui dure 9 jours, la séquence des funérailles et puis la séquence du conclave qui mène à l'élection du futur pape. Alors on va essayer de comprendre avec vous un petit peu tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, et puis en particulier demain, puisque demain matin seront célébrées les funérailles du pape François. On a vu depuis lundi des mots, des gestes, des visages qu'on ne connaît pas, en particulier peut-être qu'on peut commencer en parlant du cardinal Kamerling. Alors c'est un peu celui dont on ne parle jamais habituellement, en temps normal, et puis dans ces circonstances, eh bien, c'est l'homme qui a un rôle absolument incontournable. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui il est et quel a été son rôle depuis lundi, depuis l'annonce du décès du pape qu'il a lui-même fait en public?
Effectivement, cette fonction de cardinal Kamerling de la Sainte Église romaine, comme dit son titre, c'est une fonction qui est nommée par le pape, prévue pour justement quand le siège de Pierre sera vacant, quand il n'y aura plus la présence d'un pape régnant, et donc c'est une fonction presque, on pourrait se dire d'une certaine manière, d'attente, voilà. Et au moment de l'annonce du décès du pontife, c'est là où tout commence pour lui, avec, comme on le voit depuis le début de la semaine et le constat que font de nombreuses personnes, tout est ultra codifié. Oui. On retrouve là quelque chose de liturgique avec des rubriques qui nous disent, il faut faire ci maintenant.
Tout est écrit, il y a des règles pour chaque geste et pour chaque moment.
Pour chaque étape, effectivement, tout est écrit. Ça commence avec l'annonce lundi matin de ce décès. Donc on voit effectivement dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican le cardinal Farrell entouré de celui qui était, puisque le pendant la vacance du siège, d'une certaine manière, on peut dire qu'il n'y a plus de curie, puisque toutes les fonctions de curie tombent.
Tout s'arrête.
Tout s'arrête. Celui qui était jusqu'à dimanche soir, eh bien, le cardinal secrétaire d'État du pape, le cardinal Parolin, et à côté de eux, je crois que c'est Monseigneur Peña qui est le sous-secrétaire de cette même secrétaire d'État, en charge des affaires internes de l'Église. Et tout commence pour lui là avec l'annonce publique du décès du pape et le lundi soir la constatation officielle du décès avec c'est là où on a cette fameuse mise en bière du corps et puis la destruction de l'anneau du pêcheur et surtout la fermeture des appartements pontificaux.
Ouais, alors ça c'est très impressionnant on l'a vu effectivement sceller les portes du bureau du pape François. Finalement alors on parlera aussi de fermeture tout à l'heure quand on parlera du conclave, on ferme, on cloisonne, on arrête tout.
On ferme tout et tout ce qui est à l'intérieur reste en place jusqu'à l'élection du prochain pape et c'est avec l'élection que tout sera de nouveau ouvert dans cette idée que s'il y avait un document sur le bureau du pape il reste en place avec on imagine le stylo encore ouvert à côté et puis le prochain pape quand il arrive il retrouve le bureau dans le même état avec la même feuille de papier et c'est le nouveau pape qui pourra seulement décider ce qu'il fait de ce
bout de papier. Et vraiment s'inscrire dans une continuité de travail.
C'est ce qui s'était passé en 2013, si vous voulez, avec le pape Benoît XVI qui était en train de préparer une encyclique que le pape François a terminée, et cette fameuse encyclique, comme on dit, écrite à quatre mains, qui a été le document programmatique ensuite du pontificat du pape François.
Alors ça, c'est ce qui se passe dans l'immédiat. Et puis, il y a ce temps de deuil, pendant lequel il y a évidemment la vacance du Saint-Siège. Puis ça va durer jusqu'à l'élection du nouveau pape. Puis aussitôt, il faut quand même le dire, la convocation des cardinaux qui sont arrivés d'un petit peu partout, du monde entier, qui sont arrivés très rapidement à Rome parce qu'on leur a demandé de venir.
Effectivement, quand il n'y a plus d'évêque à Rome, quand le siège est vacant, la mission de conduire l'Église, elle repose sur le collège des cardinaux avec une mission de coordination qui est confiée au cardinal Kamerling. C'est ça.
C'est ça la congrégation générale.
Alors les congrégations générales, ce sont toutes les réunions effectivement du collège des cardinaux qui vont s'étaler donc sur 15-20 jours, et effectivement, ces congrégations générales qui sont présidées par le cardinal doyen du Collège des cardinaux, avec le Kamerling, et qui sont là à la fois pour préparer toute cette période de deuil et la préparation du conclave, mais aussi gérer, comme on peut dire aussi, expédier les affaires courantes, et urgentes de l'Église. Mais en aucun cas, par exemple, il ne peut y avoir de nomination d'évêque.
Ça sera réservé au prochain souverain pontife.
Donc effectivement, beaucoup de choses se mettent en pause, et comme si d'un coup on devait lever les mains des bureaux et puis on touche plus le bureau jusqu'à l'élection du futur pape. Et donc l'autorité, la mission est confiée au Collège des cardinaux avec le cardinal Kamerling qui a toute cette mission-là, effectivement, de coordonner tout ce travail. Les trois personnages clés qu'on voit depuis lundi, c'est donc effectivement le cardinal Kamerling, le cardinal Farrell, le cardinal doyen du Collège des cardinaux, donc le cardinal Giovanni Battista Re. Et puis un autre aussi, qui est d'un point de vue liturgique le grand maestro, donc le maître des cérémonies pontificales, donc le Monseigneur Diego Ravelli, qui sont les trois à coordonner l'ensemble de la vie de l'Église, et Monseigneur Ravelli particulièrement pour tout ce qui est préparation, mise en œuvre des célébrations liturgiques.
Alors justement, le cardinal Ravelli, le Collège des cardinaux, prépare aussi les funérailles.
Alors lui,
ça fait partie du travail des congrégations générales.
Alors c'est ça, c'est-à-dire que les congrégations générales, dans leur travail de préparation, par exemple, ça va être décider la date des obsèques. Voilà. Ensuite, après avoir décidé la date des obsèques, du coup, on entre dans le temps des novendiali, donc de ces
neuf jours
de où on célèbre des messes de suffrage. Et la congrégation générale, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle choisit qui va présider la messe et qui vont être un peu, d'une certaine manière, les invités spéciaux. Voilà. Ensuite, le contenu liturgique, le contenu liturgique des messes, il est réglé à la fois par par les documents pontificaux, que ce soit ce qui permet la gestion de l'Église pendant la vacance du siège, donc Pastorum Gregis, et puis l'Ordo Exequiarum Romanum Pontificae, qui est le rituel qui dit comment doit s'organiser le contenu même des temps de prière pour les obsèques du pape.
Voilà, alors tout est écrit, c'est un protocole qui est prévu vraiment dans tous ces textes officiels, mais le pape François, il a quand même pu exprimer certains souhaits tout à fait personnels dans son testament. Donc il y a les textes officiels qui expriment un protocole à respecter, et puis il y a quand même le testament du pape défunt qu'il faut aussi respecter. Comment les deux se conjuguent ? Est-ce que d'abord dans le testament du pape il y a des choses qui bousculent vraiment le protocole prévu ?
Alors, une chose significative, si vous voulez, par rapport au décès du pape François et qu'on avait pu voir mais qu'on n'avait pas vu avec Benoît XVI et pas avec Jean-Paul II en 2005, le corps du pape François est exposé à la prière des fidèles dans la basilique Saint-Pierre, comme ça avait été le cas pour les deux précédents pontifes, tous les précédents pontifes, mais le corps du pape François est déjà dans son cercueil. Alors que, de tradition, le corps était présenté en dehors du cercueil. Et ça, c'est clairement, vous voyez, dans ce rituel des obsèques du pontife romain, c'est clairement une volonté de changement du pape François qu'il avait exprimé. Donc, le rituel des obsèques est publié de manière officielle par Jean-Paul II, et ensuite il a été mis à jour suite aux obsèques de Jean-Paul II par Benoît XVI, et puis le pape François également. Chacun y va de sa rubrique personnelle. Et effectivement, ce que l'on lit dans le testament spirituel du pape François, c'est, alors, ce que l'on savait, qu'il avait déjà exprimé publiquement, c'est ce désir, cette volonté d'être enterré, non pas à Saint-Pierre de Rome, mais à Sainte-Marie Majeure. Et depuis ce matin, des photos circulent de la tombe qui est prête.
Voilà. Ouais. Oui. Alors il n'est pas le premier à ne pas être non. à la basilique Saint-Pierre. Il y avait déjà Pie IX qui est à Saint-Laurent hors les murs, c'était en 1878, et puis Léon XIII en basilique du Latran, ça c'était en 1903. Donc il n'est pas le premier, mais c'est quand même quelque chose d'assez fort. Est-ce qu'on peut dire que c'est symbolique ? En tous les cas, on sait que pour lui c'était un lieu, la basilique Sainte-Marie Majeure, un lieu important de prière, de recueillement. On n'est pas très étonné de ce choix, mais c'est quand même un petit changement dans le protocole.
C'est un changement. Ça fait partie des possibilités. Faire un évêque est enterré dans sa cathédrale. La cathédrale de Rome, c'est Saint-Jean du Latran, c'est pas le Saint-Pierre. Mm-hmm. Il faut pas l'oublier non plus.
Mais quand même, depuis un siècle, ils y sont tous.
Voilà, ils y sont tous. Alors voilà. Après, c'est vrai que forcément, quand le lieu d'exercice de la mission et du ministère de Pierre est au Vatican, quand on a été successeur de Saint-Pierre, on comprend qu'on a envie d'être enterré proche de Pierre aussi. Et après, en fonction des dévotions personnelles, des attachements personnels, ils ont la possibilité, et effectivement, vous le rappeliez très, très, très bien, et c'est marqué dans le testament du pape, voilà, on le savait, il avait un attachement particulier à Sainte-Marie Majeure. À chaque fois qu'il partait ou qu'il revenait
d'un voyage,
il se faisait un arrêt à Sainte-Marie Majeure. Le dernier voyage et sa sortie de l'hôpital.
Mmh. Alors avant de décortiquer le rite de la cérémonie des funérailles et puis avant de marquer une pause aussi pour le journal, on va regarder ce qui va se passer juste avant la fermeture du cercueil, parce que là aussi il y a un rite tout à fait particulier, propre bien sûr au souverain pontife. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord avec quoi il est enterré? Alors on sait que on le voit déjà dans ses habits pontificaux et avec sa mitre, donc il va être enterré avec tout ça.
Exactement, en fait le comme pour un prêtre, comme pour un, enfin voilà, le fait d'être enterré en habit liturgique, voilà. Donc pour le pape, c'est vrai, enfin voilà, c'est en habit avec une chasuble rouge, avec la mitre, voilà, signe de sa mission, de sa charge particulière. Et puis alors ce soir, donc effectivement à 20h, la fermeture du cercueil du pape. Alors on va retrouver les personnages clés, hein, qu'on a déjà cités.
Le trio.
Le trio, et effectivement dans les rites de fermeture du cercueil, alors maintenant en plus la technologie nous permet de voir ça, de filmer ça, alors qu'à l'époque c'était moins le cas, on va mettre il y a un rouleau qui est scellé dans un tube en plomb qui rappelle tout ce qui a été fait justement dans cette période de deuil, et puis qui présente, je crois, aussi un résumé du pontificat. Il y a des pièces qui sont mises, les pièces qui ont
pourquoi
été
des pièces,
alors c'est les pièces qui ont été frappées pendant le pontificat. Voilà.
Donc ils sont placés dans le cercueil.
Ils sont placés dans le cercueil. Alors c'est pas des pièces de monnaie, hein, c'est des pièces. Donc il y a ça. Et puis il y a ce rite assez magnifique qui est fait donc par le maître des cérémonies pontificales, de poser un voile de soie blanche sur le visage du pape.
Et qu'est-ce que ça signifie, ça?
Ah, c'est je pense toute cette attente, voilà, de la résurrection qui est manifestée avec ce blanc.
C'est un signe d'espérance.
C'est un signe d'espérance. Et vous voyez cette blancheur, mourir durant la semaine de l'octave de Pâques, de cette blancheur de Pâques, de cette lumière de Pâques que ce voile blanc n'est pas sans nous rappeler.
On marque une pause pour le journal et on se retrouve juste après. On va essayer de regarder un petit peu plus près tout ce qui va se passer pendant le rite des funérailles. A tout de suite, Abbé Baptiste.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Pardon, Rose, je vous ai légèrement coupé. Très, très bon appétit à vous tous, chers auditeurs qui nous écoutez. Il est 12h, passé de 32 minutes. Nous sommes en plein cœur du Présence Midi. Voici les informations.
Bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, la gare de Bagnères de Luchon finalement inaugurée, et ça se déroule aujourd'hui après de longs travaux de rénovation. Elle sera réalisée en présence de Carole Delga, présidente de la région Occitanie. C'est aussi l'occasion, 10 ans après sa fermeture, d'annoncer la remise en service de la ligne ferroviaire Luchon-Morégeau. La gare ouvrira en juin prochain, reliant les deux villes en 35 minutes, et elle proposera 6 allers-retours quotidiens.
Alors que certaines lignes reviennent, d'autres risquent de disparaître, Émile.
Effectivement, Jonathan, la ligne Auch-Toulouse est menacée par son besoin de rénovation. Mais le bras de fer entre l'État et la région sur la question du financement bloque le lancement du chantier. Cette ligne pourrait fermer en 2027 si aucune solution n'est trouvée d'ici là. C'est actuellement 10 000 personnes qui l'empruntent chaque jour. Nouvelle perturbation sur les autoroutes de Toulouse encore aujourd'hui. Un chantier qui concerne le pont du Parc du Sacré-Cœur nécessite la fermeture du périphérique extérieur. À partir de ce soir 21h et jusqu'à lundi à 5h du matin, la portion entre les échangeurs de Rangueil et l'Espinet sera fermée. Une déviation est cependant prévue route de Narbonne.
Dans le Lot, une nouvelle venue parmi l'association des villes sanctuaires de France.
À l'image de Lourdes, la ville de Cahors, grâce à sa cathédrale Saint-Étienne, son chemin de pèlerinage et sa volonté de mettre en valeur le patrimoine, a obtenu cette reconnaissance. Elle vient renforcer son attrait pour les pèlerins et les amateurs de patrimoine religieux après un audit en juin 2024. Retour à Toulouse où hier une belle croix occitane fleurie est apparue place du Capitole, une tradition annuelle à l'initiative des serres municipales. Cette année, pignons, chaînes métalliques et maillots de cyclistes décorent cette magnifique installation. Un clin d'œil au Tour de France dont le trajet de la 11e étape se fera sous forme d'une grande boucle. Rendez-vous mardi prochain de 20h30 à 22h où le frère François Daguet, professeur à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin de Toulouse, donnera la dernière conférence du cycle sur le thème « L'unité dans la cité politique ». Cela se déroule à la paroisse du Christ au Roi à Toulouse. Toujours dans la ville rose, au musée des abattoirs, clap de fin pour le musée imaginaire du rappeur Oli. Aujourd'hui, soirée de clôture sur inscription avec au programme un moment musical festif où vous pourrez entendre les artistes tels que Julien Granel, Vicky, Gigi Breu et Cut Killer. Et puis pour terminer, du rugby ce soir en Pro D2, l'Union Sportive Montalembès se délocalise à Toulouse pour le derby face à Colomiers. Match décisif pour la qualification en phase finale, le coup d'envoi est donné à 21h à l'emblématique stade Ernest Vallon, dont la capacité d'accueil permet de rassembler les nombreux supporters des deux clubs.
La suite de ce Présence Midi avec Anne-Rose Jankovic en direct dans nos studios en compagnie de son invité.
Et je suis avec l'abbé Baptiste Pochulu qui est chapelain et responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Avec vous, abbé Baptiste Pochulu, nous parlons de tout l'aspect protocolaire et liturgique depuis lundi, depuis que le pape François est décédé. Et on va se pencher maintenant sur le rite des funérailles puisque... On imagine certainement que durant cette messe de funérailles, il y aura des particularités réservées au souverain pontife. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer ? C'est demain à 10h.
Demain à 10h, effectivement, donc sur la place Saint-Pierre de, au Vatican. Enfin voilà, des images qui sont bien présentes dans nos têtes à tous. Hein. Enfin, c'était le cas pour Benoît XVI, Jean-Paul II, et ceux d'avant encore. Dans ce rite particulier des obsèques, surtout au moment de ce qu'on appelle l'absoute, enfin voilà, vraiment le dernier moment, l'ultime recommandation à Dieu, avec deux recommandations. Une recommandation de l'Église de Rome, avec le chant de la litanie des saints en latin et grégorien, pour se rappeler qu'on est bien latin, voilà. Et puis, une autre recommandation qui est, elle, des églises orientales, voilà, avec une longue prière, une belle prière dite en grec par l'un des patriarches des églises orientales unies à Rome. On peut penser par exemple aux Maronites ou à l'église catholique ukrainienne. Voilà. Et donc le patriarche qui dit cette prière avec l'aspersion du corps. Voilà. Comme si deux absoutes, voilà, en tout cas par ces deux recommandations, la manifestation, l'expression de cette dimension universelle de l'Église de Rome, catholique surtout, avec ces deux poumons qui ne respirent que le même air, mais voilà, un poumon latin et un poumon byzantin.
Alors ça résonne tout à fait particulièrement cette année où nous célébrons les 1700 ans du Concile de Nicée.
Et où le calendrier julien et le calendrier grégorien avaient la même date de Pâques.
Ah oui.
Voilà. Donc latin et byzantin avaient la même date de Pâques. Donc effectivement, on peut chercher un tas de signes providentiels dans les dates de décès des pontifes. Hein. Benoît XVI est décédé aux portes, à la fin du temps de Noël, qui était son temps liturgique préféré, pour le dire de manière un peu simple. Jean-Paul II est décédé le deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la Miséricorde, fête qu'il avait lui-même instituée. Paul VI est mort le 6 août, le jour de la Transfiguration. Enfin, on peut chercher. François meurt donc le lundi de Pâques, dans cette octave de Pâques, donc dans cette semaine où tous les jours on dit aujourd'hui. Voilà, on parle de. Voilà, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Pâques. Aujourd'hui, c'est dimanche de Pâques. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Donc, effectivement, il y a une providence divine derrière. Et effectivement, comme on vient de se dire, cette providence aussi avec le même calendrier, les 1700 ans du Concile, et puis cette année jubilaire dans laquelle on est aussi avec ce beau et grand thème de l'espérance.
Et oui, ça, c'est un peu son héritage spirituel. Alors, Monseigneur Mika, mardi, à votre place, parlait de la miséricorde comme l'héritage spirituel du pape François. On peut aussi. On peut aussi évidemment parler d'espérance, mais bon, chacun trouve dans la vie, les écrits, les voyages, ce que le pape François a fait, l'héritage qu'il souhaite et qui le fait avancer dans sa foi. En tous les cas, on a bien compris, ce rite des funérailles est tout à fait particulier puisqu'il s'agit d'un souverain pontife, donc il y a ce moment de l'absoute. Oui. Et quoi d'autre ?
Et après l'autre moment, effectivement, c'est comme on l'a vécu, c'était mercredi matin, l'entrée solennelle l'autel du corps du souverain pontife dans la basilique vaticane. Donc à la fin de la messe aussi, ben voilà, ça fait partie du rite. L'entrée de nouveau, c'est marqué comme ça, donc ça fait partie du rite, de nouveau l'entrée du corps du pape dans la basilique vaticane, pour être enterré. Alors là, effectivement, il y aurait un voyage à faire parce que Saint-Pierre et Sainte-Marie Majeure, c'est pas tout à fait, c'est pas à côté, c'est pas non plus à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Mais effectivement, il faudra faire ce transfert pour passer.
Donc aussitôt, ça fait partie du bloc rite des funérailles.
Si vous voulez, ça fait partie du bloc parce que quand on célèbre des obsèques en paroisse et que vous avez le cimetière à côté de l'église. On passe de l'un à l'autre, si on peut dire ça comme ça, tout de suite. Voilà, il n'y a pas de temps d'attente. Et effectivement, c'est la même chose.
Et alors là, ça va se passer en procession. Alors, évidemment, on imagine la foule qu'il y aura pour rendre un dernier hommage au pape François. Mais comment ça va se passer avec des chants, des psaumes
Alors, c'est ça. C'est ce qu'on voit depuis. C'était très beau de le voir mercredi matin. Voilà, ce transfert. Faire du corps du pape depuis la chapelle de la résidence Sainte-Marthe jusqu'à la basilique vaticane, ce transfert qui se fait au son et au chant des psaumes.
Voilà. Et ça va être la même chose pour aller du Vatican jusqu'à la basilique Sainte-Marie Majeure demain matin.
Peut-être, je ne sais pas si le transfert se fera à pied ou s'il se fera en voiture. Donc, voilà. Effectivement, je crois que c'est pour le pape Pie XII. Qui était mort à Castel Gandolfo, lui aussi comme Paul VI. Je crois que c'est pour Pie XII qu'effectivement il y avait eu une immense procession dans Rome, de la porte de Rome jusqu'à la basilique vaticane pour accueillir le corps du pape et dans cet hommage du peuple de Rome à son évêque, il faut pas l'oublier. Alors est-ce que demain on aura une telle procession? Je ne sais pas. Ça pourrait être quelque chose de magnifique à voir et surtout plus que voir, à vivre surtout.
Alors arrivé à la basilique Sainte-Marie Majeure, évidemment l'inhumation, et puis après. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, on se concentre sur le conclave. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que, une fois qu'il sera inhumé, est-ce que le deuil est terminé? On passe au conclave? Comment ça va se passer à ce niveau-là? Non,
inhumation avec, vous voyez, place Saint-Pierre. Donc, on aura l'Église universelle rassemblée pour recommander à Dieu le souverain pontife. A été publié hier dans un communiqué de presse de la salle de presse du Vatican, comme quoi sur les marches de la basilique Sainte-Marie Majeure, donc là où va être enterré le pape François, il y aura une délégation de pauvres et de gens dans le besoin. Voilà. Le texte qui accompagne.
Donc on peut imaginer des migrants, des anciens détenus.
Exactement. Ce peuple-là que le pape François affectionnait particulièrement. Mmh. Voilà. Ce peuple-là sera là comme une haie d'honneur pour son entrée dans ce qui sera sa dernière demeure sur terre, cette magnifique nécropole de la basilique libérienne, de la basilique Sainte-Marie Majeure en haut de l'Esquilin là-bas à Rome. Et effectivement. Le pape est enterré, mis en terre, on scelle le tombeau et on entre, on poursuit la marche de l'église en entrant, alors dans ces novena diali, donc c'est-à-dire ces 9 jours de célébration où tous les jours on va célébrer des messes de suffrage pour le pape. Alors le Vatican a publié toute la liste. On commence dès dimanche matin à l'extérieur, donc présidé par le cardinal Parolin, et puis tous les jours de lundi jusqu'au samedi qui suit, même jusqu'au dimanche qui suit, à 17h, une messe présidée par un cardinal.
Donc ça, c'est la séquence des funérailles qui continue. Et le conclave ne commence pas tant que cette séquence des funérailles n'est pas terminée.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, dans les documents qui ont été publiés, donc voilà, le 9e jour est identifié comme le dimanche 4 mai. Si vous voulez, on peut se dire que, alors pour l'instant, aucune date n'a été publiée, sauf peut-être depuis le début de cette émission, mais pour l'instant, on peut tout à fait imaginer que l'entrée en conclave pourrait se faire le lundi 5 mai prochain.
Voilà, bah alors.
Dans les documents, c'est marqué que l'entrée en conclave doit se faire entre les 15 et 20 jours après la constatation de la mort.
Alors ça, c'est la durée avant que ça commence, voilà. Et la durée même du conclave aussi est un petit peu, Régis, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça dure des mois et des mois non plus.
Non, c'est ça. Enfin, d'où le terme de conclave. Hein. Si on a décidé un jour de les enfermer dans un lieu, c'est parce que à une époque, Moyen Âge, on avait été un peu long. Et donc du coup, pour les contraindre à se mettre au travail ou enfin, en tout cas à écouter l'Esprit Saint, on les avait enfermés et donc d'où ce fameux nom de conclave avec ce fameux extra omnes. Voilà, tout le monde dehors. Enfin, voilà, donc
c'est à la fois l'isolement complet, oui. Et puis le secret absolu. C'est ça, c'est très important parce que pendant tout ce temps du conclave, nos chers cardinaux, ils sont coupés du monde. Pas tout de presse, fait. Pas de téléphone, pas d'amis à rencontrer.
Ni de consignes à recevoir.
Donc ça, c'est quand même un temps très, très particulier. Le peuple de Dieu est en attente et eux, ils sont dans une espèce de bulle.
C'est ça, ils sont dans une espèce de bulle, une bulle spirituelle. Voilà,
Pour que l'Esprit Saint souffle. Pour que l'Esprit Saint souffle, il faut qu'il prie, oui, quand même.
Et effectivement, avec donc tout ce qui est régi, hein, donc deux votes le matin, deux votes l'après-midi. Si au bout de deux jours de vote, il n'y a personne qui a été élu, il y a un troisième jour sans vote pour pouvoir vivre une journée de récollection, une journée de prière. Donc le conclave est ainsi rythmé avec ce fameux rite de la fumée noire, voilà, qui permet de faire savoir au monde entier. C'est, finalement, c'est, à l'ère du numérique, la fumée reste le dernier moyen, le seul moyen que les cardinaux ont de nous faire savoir.
Peut-être qu'ils pourraient en avoir d'autres, mais en fait, ça dit aussi quelque chose, le fait de vouloir garder cette fumée noire puis blanche à la fin. C'est quand même s'attacher à ce. Est-ce que c'est un rite? Est-ce qu'on peut appeler ça un rite?
Oui, ça fait clairement partie du rite. Oui, c'est-à-dire que le vote, le dépouillement du vote, l'annonce des voix. Et puis effectivement, on brûle les bulletins et donc ça fait partie des documents, ça fait partie du rite dans les documents, mais ça fait partie du rite populaire que d'attendre la couleur de la fumée, ça c'est très clairement.
Donc le prochain souverain pontife sera celui qui obtiendra 2/3 des voix au conclave.
Tout à fait, c'est à la majorité des 2/3 que
donc ça peut durer une journée, mais ça peut durer presque 2 semaines.
Voilà, c'est ça. On l'espère pas quand même.
Mais en attendant, le peuple de Dieu est aussi invité à prier pendant ce temps.
Oui, c'est ça. Effectivement, c'est ce que vous disiez. Les cardinaux sont dans une bulle spirituelle, mais nous, notre attitude, qui sommes à l'extérieur, qui sommes encore dans le monde et surtout dans l'attente, nous, notre attitude, elle est clairement celle de demeurer en prière, vigilant dans la prière, attentif dans la prière, confiant dans la prière et intercédant pour les cardinaux. En demandant que l'œuvre de Dieu soit faite.
Vous qui êtes responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, abbé Baptiste Pochulu, dans tout ce que vous nous avez expliqué du protocole, de la liturgie, des rites depuis le décès du pape François et puis tout ce qui va se passer demain et dans les jours qui viennent, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous marque, quel est l'élément qui touche votre cœur, tout simplement?
Peut-être tout cet aspect de... Tout cet aspect de douceur qu'il y a autour de tous ces événements. Enfin, effectivement,
pourtant, il y a de l'agitation.
Voilà, c'est ça. C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que, c'est un événement bouleversant pour la vie de l'Église. On perd celui qui préside à la charité, comme dit Saint Ignace d'Antioche, en s'adressant à l'évêque de Rome. Donc, on perd, d'une certaine manière, une clé de voûte. Voilà. Et on le voit très bien, ça a des répercussions dans la vie du monde. Enfin, je ne sais pas combien de chefs d'État, en tout cas certains grands de ce monde seront présents demain matin. Enfin, c'est pas rien. Enfin, on pourrait, voilà, tous les deuils nationaux qui ont été déclarés dans certains pays, le fait de mettre les drapeaux en berne, voilà, on voit ce que ça provoque dans le monde que la disparition du chef suprême de l'Église catholique. C'est pas rien. Ça crée beaucoup d'agitation, ça crée de l'agitation dans les médias également de savoir qui sera le prochain, et chacun y va de son petit pronostic.
Je ne vous demande pas votre pronostic.
Vous ne saurez rien. Et donc, ça ne sert à rien de se voir. Qui rentre pape au conclave en ressort cardinal. Donc c'est ce que dit l'adage. Donc, voilà, donc il faut accueillir, au contraire, il faut demander au Seigneur dans ce temps de prière un cœur pour accueillir celui qu'il nous donnera pour pouvoir nous conduire, justement. Et donc, effectivement, il y a toute cette agitation, enfin, l'agitation, la file pour rentrer dans Saint-Pierre fait quand même 2 kilomètres.
Oui.
Il y a 4 heures d'attente. Enfin, c'est absolument gigantesque. Enfin, on avait vu des choses comme ça avec la reine Elisabeth II d'Angleterre. Enfin, voilà, on a ça. Donc, effectivement, c'est toute une agitation. Et pourtant, quelque chose de calme, quelque chose de paisible dans ce temps qui se vit. Peut-être aider, effectivement, alors, parce que c'est la lorgnette à travers laquelle je vois peut-être la chose, mais voilà, parce que la liturgie est là, elle nous porte, et elle nous porte dans quelque chose de tranquille, de un peu suave, voilà, en tout cas, qui nous permet de clairement toucher du doigt quelque chose de l'ordre de l'espérance.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Abbé Baptiste Pochelu, vous qui êtes chapelain et responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. On imagine que demain matin, vous suivrez attentivement. Si vous le pouvez, parce que...
Les obsèques seront retransmises en direct à 10h dans la basilique Saint-Pédis. Voilà, pour permettre aux pèlerins de pouvoir s'associer à ce temps de prière. Voilà. Et j'espère que mon programme de demain matin me permettra de suivre un peu quand même ce grand événement de la vie de l'Église et du monde.
Voilà, les funérailles du pape François, c'est retransmis en direct dans la basilique Saint-Pédis demain matin à 10h. Les pèlerins peuvent s'y joindre et évidemment toutes les personnes qui habitent pas trop loin de Lourdes. Merci.
Je me permets de rajouter que cette retransmission sera faite également sur Radio Présence à partir de 9h50 demain matin jusqu'à 13h. N'oublions pas nos chers auditeurs.
Bien sûr, vous avez raison, Joseph.
Merci Anne-Rose, merci Père Baptiste Pochelu, très bon week-end à vous et à très bientôt sur notre antenne. This night, I awoke out from dreams of tall cascading covered from above with fountains of love, and you fly with me through a scene of deep caressing rivers. Love. Rivers of Love, c'était Lisa Egdahl sur Présence.
Présence à Pau, 96.
L'Occitanie, un doux nom qui a inspiré nombre d'écrivains célèbres depuis des siècles. Séduit par ses paysages, son art de vivre, son histoire, ses habitants, écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Maurice Genevoix. Maurice Genevoix dut interrompre de brillantes études en 1914 pour rejoindre le front et fut grièvement blessé à la bataille des Éparges à Verdun. Cette épreuve lui fournira la trame de son roman « Sous Verdun », l'un des témoignages les plus réalistes sur la Première Guerre mondiale. La paix revenue, il se retira en Sologne et se consacra à la littérature avec succès. Il obtient notamment le prix Goncourt en 1925 avec Rabolio. Pendant l'occupation, il avait rejoint sa belle famille en Aveyron, dans le petit village de Saint-Victor et Melvieux, qui surplombe les Raspes, défilé sauvage et encaissé du Tarn en aval de Millau. Il a ainsi décrit sa retraite. Ce pays, rude et fauve, neigeux l'hiver, est quelquefois péniblement séparé. J'en connais à présent chaque famille, chaque troupeau, chaque chien de berger. À quelques kilomètres à la ronde, il n'y a plus guère de ravin où mes souliers n'aient fait rouler les pierres de pentes que je n'ai escaladées. C'est là qu'il a écrit « La Motte Rouge », roman inspiré par un épisode sanglant des guerres de religion. Maurice Genevoix est entré au Panthéon en 2020. Le Tarn semblait monter vers eux, élargi à cette place et dormant comme dans une cuvette de pierre. La teinte verte de l'eau, plus intense encore et plus sombre, révélait une profondeur de gouffre. Il y avait aussi le ciel, le silence transparent où bruissait le Tarn, l'amicale sauvagerie des Raspes, la suavité bleuâtre des horizons. La porte restait toujours ouverte, accueillant la lumière du jour, le vent et les poules vagabondes. La table de bois nu, toujours blanche et lavée, le banc, deux ou trois escabelles, se trouvaient en face de cette porte, dans la clarté qui venait d'elle. Le reste de la salle était sombre, sans nulle autre ouverture qu'une fenêtre à carreaux de corne, plus étroite qu'un lucarnon, ménagée dans des pierres du mur du côté du Tarn et des Raspes. La saison s'inclinait vers l'été. Le temps restait immuablement serein, des aubes légères et vermeilles, de longs jours éclatants, où l'air vibrait au-dessus du Causse, où les fermes de la montagne, accrochées sur la pente adverse de la vallée, au-dessus des taillis serrés de petits chênes et de châtaigniers, avait l'ardente rousseur des terres. Des soirs interminables, transparents, où le bleu des collines prenait une douceur duveteuse, où la frange des causses lointains, appelant à elle en nappes glissantes les rayons du soleil déclinant, devenait d'un rose pâle et blond qui fondait l'âpreté de la pierre dans la douceur des horizons. Il vivait à l'air libre, dans la lumière et le vent tiède. Jourdaine et la mama, conduisant une dizaine de brebis, les menaient sous les vieux châtaigniers au bord des Raspes. Elles s'arrêtaient non loin de la maison, un peu au-dessus d'un chemin qui serpentait jusqu'aux premières roches. Elles étaient là, sur un petit pré en terrasse, dont quelques sources, courant à fleur d'herbe, avivaient la luisante verdure. Juste en face d'elle, la vallée s'évasait en un cirque ample et profond, aux parois hérissées, abruptes, au pied desquelles coulait le Tarn. De là, elle n'apercevait point ses eaux, mais parfois, lorsque l'air était calme, elle distinguait la fraîche rumeur qu'elle faisait en brisant les rocs. Extrait de La Motte Rouge de Maurice Genevoix. À travers les mots et les regards de Maurice Genevoix, inspirés par nos montagnes, nos paysages, notre belle Occitanie, nous avons pu apprécier son talent et son émerveillement devant ce beau patrimoine. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles d'Occitanie, inspirant tous mes récits ».
Voilà, merci à Catherine Albrecht de nous proposer cette chronique littéraire tous les vendredis. C'est ainsi que s'achève ce Présence Midi que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. Je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute de Présence. Je vous rappelle simplement les deux rendez-vous cet après-midi. Eh bien, c'est l'heure de la prière comme tous les jours sur Présence avec la retransmission en direct de la grotte des Sanctuaires de Lourdes, la prière du chapelet depuis la grotte de Massabielle pour toutes vos intentions. Et puis, comme on vous l'a déjà annoncé, ce rendez-vous à partir de 9h50 demain matin, un rendez-vous exceptionnel qui nous permettra de vivre en direct de Rome les funérailles du pape François. À toutes et à tous, très très belle journée à l'écoute de Présence. Voici les informations nationales et internationales.
Radio Présence à Saint-Gaudens 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Plus d'une centaine de milliers de pèlerins ont défilé devant le cercueil ouvert du pape François. En trois jours, la vénération de la dépouille est encore